Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice numéro 144. Et comme à l'accoutumée, je suis avec mon grand ami Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
144, hein. On avance. Et on parle toujours un peu des mêmes sujets quand même, l'Europe. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous aurons deux sujets comme à l'accoutumée encore une fois. Nous parlerons d'Allemagne tout d'abord et nous parlerons d'Ukraine après, en deuxième partie donc d'Europa Voice. On débute avec donc l'Allemagne. Et l'Allemagne qui, malheureusement, je serais tenté de dire, ou c'est la surprise, ou est-ce que c'est vraiment la surprise, emboîte le pas des politiques et du mouvement politique en Europe. Sauf qu'en Allemagne, ça pique toujours un petit peu plus. Les élections régionales ont fait que l'extrême droite, pour la première fois, a remporté une élection en Allemagne depuis l'après-guerre. C'est assez notable, vu l'histoire du pays. Mais ça répond bien à ce qui se passe, à l'influx de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, Nathanaël.
C'est effectivement, Christophe, la première fois qu'un parti d'extrême droite remporte une élection d'État depuis l'Allemagne nazie. Et je crois que c'est l'information qui est importante.
Rien que ça, de le dire, ça fait froid dans le dos.
Exactement. Et ce qui est terrible aussi, Christophe, c'est que l'AFD, notamment, ou les partis d'extrême droite ou populistes, avaient déjà fait des percées en Allemagne. Il y avait déjà eu des mises en garde de la part des pouvoirs en place de l'impossibilité, d'une certaine façon, en Allemagne, de revoir ces partis arriver au pouvoir. Et puis là, avec ces élections régionales, notamment dans des régions d'Allemagne de l'Est, c'est donc la première fois que des partis d'extrême droite reviennent dans la course. Et puis ce qui est aussi inquiétant, Christophe, c'est que ça s'inscrit effectivement, Christophe, comme vous l'avez mentionné, dans une image globale de ce qui se passe actuellement en Europe avec l'émergence, la réémergence de partis d'extrême droite, plus seulement à l'Est, mais aussi dans les pays de l'Ouest de l'Europe. Et puis la deuxième chose, c'est l'AFD ne va pas revenir au pouvoir, ne va pas gouverner l'Allemagne, on n'est pas encore là. Mais par contre, ils seront capables de mettre dans l'agenda politique des partis principaux, SPD et CDU, leur agenda à eux, et donc leur thématique aussi à eux d'extrême droite. Et c'est ça aussi qui est terrible avec cette nouvelle, c'est qu'on va avoir maintenant, pour les années à venir, la résurgence de débats, de positions d'extrême droite que les partis principaux, SPD et CDU en tête, ne pourront plus ignorer.
On a déjà vu ça. Je veux dire, c'est assez récent quand même le résultat de cette élection, mais tout au long de cette campagne régionale, ça a dû avoir un retentissement national. C'est obligatoire. En Allemagne, c'est une énorme nouvelle également. Donc, on a déjà vu que la rhétorique est devenue très à droite maintenant en Allemagne.
Alors, il y a un élément conjoncturel aussi, Christophe, c'est l'attaque au couteau par un migrant syrien à Solingen. Donc ça, c'est dans l'ouest de l'Allemagne, c'est vers Düsseldorf. Mais ça met de l'eau au moulin de l'AFD pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une petite partie encore du djihadisme global, puisqu'il y a une revendication de l'organisation de l'État islamique, de l'EI. Ensuite, ça pose des questions aussi, ça remet dans le débat les questions sur l'immigration, parce qu'en fait, ce migrant devait être expulsé d'Allemagne. Donc l'AFD en profite aussi pour dire que le parti de Scholz n'est pas assez sévère et ne met pas en place ce qui devrait être mis en place quand il y a des ordres d'expulsion par rapport à des migrants. Donc il y a cet élément conjoncturel.
Les raccourcis sont tout simplement trouvés. Hein.
D'une certaine façon, c'est toujours l'émergence des partis populistes, c'est toujours une manière de pallier les manquements des partis de gouvernement. Et puis, la deuxième chose qui est plus une toile de fond, c'est qu'on parle de l'AFD qui va être capable de distiller son narratif et de faire que les partis au gouvernement devront prendre en compte aussi ces lois, ou en tout cas ces thèmes de prédilection. Mais ce n'est pas le seul parti extrémiste et populiste qui fait un bon score. Il y a un autre parti, et ça va faire ça va ring a bell, comme on dit en anglais. Il y a un parti d'extrême gauche qui, lui aussi, fait son entrée dans la scène politique. Donc on arrive à un moment en Allemagne, et là je fais un petit cocorico, bonjour la France, où la surprise de ces élections régionales, c'est l'émergence de partis d'extrême gauche et d'extrême droite.
Et les partis d'extrême gauche dans l'ancienne Allemagne de l'Est, ça envoie un peu des sueurs froides aussi, je pense, à des gens qui ont un peu de mémoire par rapport à la région.
Oui, et puis il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que c'est un parti d'extrême gauche qui a fait une rupture avec l'extrême gauche, Die Linke, etc., qui est toujours d'extrême gauche sur les questions économiques, mais qui par contre préempte des thèmes d'extrême droite sur les questions sociétales. Donc d'une certaine façon, c'est le pire des deux mondes, Christophe, ce parti d'extrême gauche. Et donc l'Allemagne se retrouve aussi avec une coalition gouvernementale qui était déjà fragile, encore plus fragilisée, avec un Olaf Scholz qui lui aussi était très contesté, encore plus contesté, et avec malheureusement des partis qui font un bon score, qui proposent une alternative, mais qui sont des partis extrêmes à ces élections régionales en Allemagne.
Est-ce que ça, ce ne serait pas le signal d'alarme d'avoir une Europe qui s'unifie un petit peu dans le, à la fois le combat contre les extrêmes, on va généraliser à ce niveau-là, parce qu'on sait, on le voit, ça arrive partout, mais ça arrive dans les deux grands pays européens, les pays, bon, pas forcément leaders, parce que chaque pays a une voix et c'est très réparti de ce côté-là, mais dans les économies, les économies les plus fortes de l'Europe, la France, l'Allemagne, est-ce que ça, c'est pas un signal d'alarme pour qu'il y ait une unification dans le sens de, bah voilà, faut vraiment qu'on regarde ce qui se passe en Europe globalement des deux côtés des extrêmes.
Alors, ce qui est toujours intéressant et ce qu'on dit souvent sur ce plateau d'Europa Voice, Christophe, c'est qu'il faut prendre non pas la photo à un instant T, mais la progression. Et encore une fois, ce qui se passe en Allemagne, c'est simplement une pièce de plus dans le puzzle de la montée des extrêmes dans toute l'Europe, et le cas français est assez parlant pour ça. Et d'ailleurs, d'un point de vue simplement institutionnel, on est encore à près de 2 mois après des élections où il y a encore une instabilité d'un point de vue gouvernemental, parce que quand les extrêmes sont au pouvoir, et bien évidemment le pacte républicain, il est mis à mal, et on a plus de mal à se décider. Donc d'abord, c'est cette progression partout dans l'Europe, et avec le cas allemand qui est d'autant plus symbolique, comme vous l'avez mentionné, le retour d'un parti d'extrême droite depuis l'Allemagne nazie. La deuxième chose aussi, c'est que, et ça je crois que c'est important pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, c'est que les magouilles ou les arrangements électoraux politiques ne fonctionnent plus, parce qu'en Allemagne, ce qui se passe, c'est que par rapport à la montée de ces partis extrêmes, on a aussi les autres partis dits de gouvernement qui refusent de s'allier avec l'AFD. Mais il est très clair que cet équivalent de front républicain, c'est-à-dire tous ensemble contre l'AFD, encore une fois, il est artificiel, Christophe.
C'est carrément du copier-coller de ce qui se passe en France, presque.
Eh ben,
on n'en est pas loin, quand même.
Je ne sais pas si à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne, mais en tout cas, là, la situation, elle est effectivement assez similaire, parce qu'encore une fois, il y a une incapacité des gouvernements à apporter des réponses, j'allais dire, politiques, mais pas d'un point de vue du processus politique, d'un point de vue des réponses politiques. Et la question de la migration, pour revenir à vos propos sur l'Europe, elle est intéressante parce que c'est un échec, effectivement, de la politique migratoire allemande. Hein, quand on a sur son sol un ressortissant qui doit être expulsé légalement, qui n'est pas expulsé, qui commet un acte, évidemment. Mais encore une fois, la question migratoire, elle ne sera résolue et traitée en Europe que si elle l'est à l'échelle, à la seule échelle cohérente, qui est l'échelle européenne, parce qu'on est dans une zone de libre-échange, de libre circulation des biens et des personnes, et que donc ces questions de défense, de migration, de politique étrangère, elles ne sont cohérentes que si elles sont prises en charge du point de vue européen. Et effectivement, là, c'est pas simplement le cas allemand, c'est au niveau de toute l'Europe qu'on doit se poser ces questions. Et les images qu'on voit à Lampedusa et les revirements de Mélanie par rapport aux questions migratoires, les images qu'on voit à Ciuta Melilla et en Espagne, vous voyez un peu, la question, elle est européenne. Et c'est en ça que les leaders européens doivent aussi mettre l'agenda migratoire sur le devant de la table au prochain sommet et prochaine réunion européenne.
Oui, absolument. On fait une courte pause et on reparle de l'Allemagne, puisqu'on va se diriger vers l'Ukraine, mais il y a un lien.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
De retour dans la Europa Voice, deuxième partie, donc avec Nathanaël Bloch toujours. On va parler de l'Ukraine maintenant dans cette deuxième partie, mais il y a un lien avec la première partie, puisque l'Allemagne a été le pays qui a le plus remis de l'argent et d'aide à l'Ukraine depuis le début du conflit contre la Russie. Donc justement, avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, si on fait un petit résumé, l'Ukraine a pris des terres en Russie et la Russie a frappé de plus en plus fort en Ukraine. C'est la situation la plus simplistique, le résumé le plus simplistique qui soit. cette incursion ukrainienne dans le territoire russe, il pose énormément de problèmes. D'un côté diplomatique, il y a un côté bon, ok, sur le terrain, mais d'un côté diplomatique, ça pose certains problèmes, notamment pour l'Allemagne, notamment pour la France, qui ont armé l'Ukraine.
Alors, pour revenir à vos propos, effectivement, d'abord sur l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui a le plus aidé l'Ukraine, financièrement notamment, depuis le début de l'invasion russe. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, et ça, c'est très parlant pour Europa Voice, c'est que les instituts calculent les aides de pays comme les États-Unis, comme de l'Allemagne, mais aussi les aides de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on en est encore à séquencer et à dire au sein de l'Union européenne quels sont les pays. Et donc, c'est très révélateur quand même, encore une fois, du fait que l'Union européenne n'a pas forcément une attitude, une opinion similaire sur ces questions.
Tant que l'Union européenne n'aura pas une armée, ce sera comme ça. Hein.
Bah, voilà,
peut le simplifier comme ça.
On en vient toujours. Donc, mais effectivement, Berlin, c'est le troisième donateur derrière les États-Unis et l'Union européenne, évidemment, d'aide à l'Ukraine dans sa globalité. Mais l'Allemagne elle-même envisage de réduire ses aides. Alors, la question de savoir si les pays sont considérés comme étant en guerre, entrés en guerre ou pas, évidemment, c'est une pression que Moscou met sur l'Union européenne. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'OTAN a déclaré ces derniers jours, quand la Pologne a voulu abattre de manière préventive des drones, des avions russes, que ça ne se fait pas dans le cadre de l'OTAN, parce que l'OTAN ne rentre pas de plein pied dans le conflit. Donc, on est encore à cette limite où les pays européens ne sont pas, j'allais dire, de facto rentrés dans la guerre face à la Russie. Mais la manière qu'ils ont trouvée, c'est d'aider l'Ukraine d'un point de vue financier, militaire, humain, on en a parlé, médical, pour faire face à la Russie.
Mais honnêtement, on marche sur des œufs. Si on est européen, au niveau des instances européennes, ça devient de plus en plus tendu.
Via l'Ukraine, mais ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que, en fait, si c'est rapporté au PIB, là on parle de l'aide, hein, de nouveau Christophe, si on rapporte ça au PIB des pays, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la France, c'est les pays frontaliers de l'Ukraine et de la Russie, c'est les pays baltes, c'est la Finlande, c'est ces pays-là qui, en fait, donnent, en fonction des revenus, le plus d'aide à l'Ukraine. Et ça paraît tout à fait normal, parce que ce sont aussi les pays les plus menacés. Et ça va aussi dans le sens, on en a parlé, de la fin de la neutralité, notamment de certains pays scandinaves.
La Suède.
Par rapport à, voilà, la Suède, par rapport à l'OTAN et le rapprochement avec l'OTAN. Donc effectivement, on marche sur des œufs, parce que les Européens ou les membres de l'OTAN ne veulent pas d'une confrontation directe entre ces groupes de pays, d'une certaine façon, on va dire, et la Russie, mais en même temps, c'est une guerre qui est à leur porte, c'est une guerre qui concerne un de leurs membres, slash un de leurs futurs membres, et donc ils se doivent d'apporter une réponse, et j'allais dire d'autant plus que c'était hier l'Ukraine, c'est une partie de la Géorgie,
Biélorussie,
c'est la Biélorussie, c'est quoi demain? Donc c'est la Pologne, on se rapproche plus ensuite, donc de toute façon, l'Europe ne peut pas ne pas réagir, mais en même temps, ne va pas rentrer directement en conflit avec la Russie. Puis c'est la même chose pour les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas rentrés directement en conflit avec l'Ukraine, mais sont encore les premiers donateurs, là, de manière en valeur absolue, de cette aide accordée à l'Ukraine.
Alors sur le terrain, sans détailler tactiquement, mais cette avancée ukrainienne, elle est importante, parce que c'est la première fois que l'Ukraine fait une avancée sur le terrain russe. C'était une sorte de pied de nez à Poutine. Mais même si c'était un pied de nez au départ, on se disait, bon, c'est que quelques kilomètres, etc. Ces kilomètres, ils tiennent. L'avancée, elle a continué. Il y a plus de kilomètres. C'est des centaines de kilomètres maintenant. Forcément, ça rabat les cartes de ce conflit.
Alors, la question derrière cette incursion ukrainienne en territoire russe, qui est d'une certaine façon une première, hein, que les Ukrainiens soient allés aussi loin depuis près de 2 ans de conflit, la question, c'est savoir c'est quoi l'objectif de Kiev.
Ouais.
Il y a beaucoup de choses qui se disent, rien n'est sûr, mais il y a plusieurs niveaux d'analyse. Il y a une première hypothèse qui serait que l'Ukraine cherche à s'implanter de manière, non pas définitive, mais sur la longue durée, sur le territoire russe, pour avoir d'une certaine façon une monnaie d'échange s'il y a des pourparlers de territoire, par exemple d'échange de territoire gagné, perdu, etc. Les Ukrainiens soient là. Je ne crois pas trop, Christophe, à cet objectif de Kiev, tout simplement parce que c'était une opération un peu éclair quand même, surprise. Mais il est évident que sur la durée, Zelensky sait très bien que la Russie sera capable de remobiliser des troupes et donc Kiev ne peut pas rester, j'allais dire, sur la durée et faire d'une certaine façon une
monnaie d'échange.
Une monnaie d'échange.
C'est pas ce
voilà.
qui va se passer.
Donc c'est pour moi c'est pas ça. Il y a d'autres, j'allais dire, objectifs qui sont à mon avis beaucoup plus crédibles. C'est ceux tout simplement de se positionner là où il y a des nœuds ferroviaires et des nœuds de communication importants dans le cadre de futures offensives. Et c'est peut-être dans ce cadre-là que cette invasion ukrainienne a été faite. C'est pour effectivement mailler le territoire et permettre le déploiement de futures opérations. Dernière hypothèse, Christophe, c'est aussi tout simplement d'une certaine façon une démonstration de force avec un objectif très court terme, mais une démonstration de force de l'Ukraine pour avoir un impact sur le moral russe, sur les troupes russes, sur la cohésion russe et donc permettre d'avancer. Mais vous voyez, c'est des objectifs assez différents. C'est compliqué, on lit ni dans les boules de cristal, ni dans la tête de Zelensky. Il y a peu de communication qui a été faite aussi sur les objectifs de course, puisque c'est de ça dont on parle. Le problème, c'est qu'on voit aussi la réponse russe, et encore pas plus tard qu'à l'heure où on enregistre, là, ce 4 septembre.
Ultra-violente.
Voilà, des réponses ultra-violentes, des missiles qui tombent dans les villes ukrainiennes. Donc,
Des hôpitaux, des écoles, ouvertement.
Donc, il est évident aussi que Zelensky va devoir capitaliser assez rapidement sur, j'allais dire, cette victoire, puisque c'est une victoire quand même ukrainienne, et ce coup porté aux Russes début août.
Mais on aurait pu croire que, d'un point de vue occidental, on se, entre guillemets, réjouisse plus de cette tournée des faits, mais du fait de l'implication, encore une fois, financière et matérielle de tout, quasiment les pays européens, on n'a pas pu prendre position là-dessus. On a dû simplement prendre cette nouvelle avec des pincettes aussi, parce que ça peut vraiment mettre le feu dans la région.
Je crois que ce qui est très parlant, Christophe, encore une fois, c'est l'exemple polonais là, de ce début septembre où la Pologne s'est dite prête à abattre des missiles russes au-dessus de l'Ukraine de manière préventive avant qu'ils ne touchent et qu'ils n'endommagent le territoire polonais. Donc d'un point de vue polonais, c'est tout à fait compréhensible. Attendre qu'il ne soit pas, voilà, légitime, qu'il ne soit pas trop tard. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le ministre polonais des Affaires étrangères a même parlé, pour protéger cet espace aérien, d'un devoir constitutionnel. Donc d'un point de vue polonais, ça se comprend parfaitement. Mais l'OTAN, par la voix de son secrétaire général, là en l'occurrence sortant Jens Stoltenberg, a dit que l'OTAN ne participerait pas à ces frappes préventives. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on sait la relation et comment la Pologne est une des bases arrières de l'OTAN en Europe de l'Est. S'il y a bien un pays qui représente qui magnifie la présence de l'OTAN en Europe de l'Est, c'est la Pologne. Donc il y a quand même, encore une fois, cette volonté, effectivement, de fournir en aide militaire, de ne pas... L'OTAN ne s'oppose pas non plus, ne va pas mettre un veto à la Pologne pour qu'elle n'envoie pas ses missiles. Donc c'est d'une certaine façon une permissivité passive qui est accordée à chaque pays, parce que l'Europe et l'OTAN ne peuvent pas être en conflit ouvert et déclaré avec la Russie. Par contre, chaque pays fait ce qu'il a à faire, quid d'un point de vue diplomatique en arrêtant la neutralité, quid d'un point de vue financier comme les Pays-Baltes en soutenant de plus en plus l'Ukraine, ou quid d'un point de vue militaire comme les Polonais en envoyant des drones de manière préventive en territoire ukrainien.
Il y a un côté historique aussi pour la Pologne, parce qu'ils étaient vraiment au cœur du lancement de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, du coup, ils ont été envahis d'une certaine façon. Et c'est vrai que ce côté historique, il doit rester dans les autorités polonaises, qu'on soit de droite ou de gauche ou quoi que ce soit. Moi, pour y avoir été en Pologne, c'est toujours très, 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 très présent. Donc forcément, il y a aussi ce sentiment de devoir, je pense, au sein des autorités, mais aussi de la population polonaise, de pas répéter l'histoire que eux-mêmes ont vécue.
Oui, il y a, comme vous l'avez dit, vous avez mentionné, vous étiez sur place, il y a aussi la guerre était sur leur territoire, ils ont connu cette guerre. Et puis il y a aussi quelque chose qui, je trouve, très emblématique du cas polonais, parce que le cas polonais, c'est vraiment l'histoire de l'Union européenne.
Totalement, ouais.
Du XXe siècle. C'est l'histoire, évidemment, des camps de concentration, mais c'est l'histoire du communisme après la Seconde Guerre mondiale en Pologne, mais c'est aussi l'histoire de l'accès j'allais dire, et la, à la démocratisation et le rattrapage économique. La Pologne a atteint des indices de développement aussi élevés que les pays d'Europe occidentale selon les critères de l'OCDE. Donc, vous voyez, en 60 ans, la Pologne passe du pire de ce que l'homme peut imaginer au communisme, à un pays finalement développé via son accès à l'Union européenne. Et donc, il y a quelque chose aussi de très effectivement emblématique et symbolique que la Pologne soit aussi maintenant dans, j'allais dire, la tourmente, mais soit tellement une pièce maîtresse dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie.
Absolument. Affaire à suivre, Nathanaël.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.